Un homme seul, avec son corps imposant, une main qui bat l'air, barbe de 5 jours, regard rieur, un homme avec l'épaisseur d'une vie, avec la succession des personnages qu'il a habités, des années à tutoyer Rostand, Shakespeare, Molière, Rambert, des milliers de répliques, de mots, de métamorphoses dans nos rétines de spectateurs, images superposées, et le voilà, seul, sur scène, un acteur.
Pascal Paradou.
Un acteur et quel acteur ? Un livre, des spectacles, il y a quelques jours au Théâtre des Bouffes du Nord dans un texte de Pascal Rambert, Rangé. Aujourd'hui à la Scala pour dire ses passions et ses découvertes littéraires dans Weber à vif. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
À vif, c'est le propre d'un comédien ?
Oh, je ne sais pas si c'est le... Non, justement, je pense qu'il faut beaucoup de maîtrise et d'artisanat pour se permettre d'entrer en scène. Mais ce qui est vrai que cet artisanat, au fond, consiste à aller au plus loin de soi-même et finalement se retrouver un peu... accepter de se retrouver nu et sans vanité. Donc, quelque part, oui, c'est peut-être le but.
À vivre, donc, c'est être nu, c'est être sincère, c'est être soi-même.
À vivre, c'est peut-être d'une façon que permet ce type de spectacle de s'approprier totalement les textes. Lorsque vous jouez un rôle qui appartient à une dramaturgie et à une mise en scène donnée, ça n'est pas la même chose. Il y a un autre entre vous et le personnage, etc. Alors même que lorsque vous choisissez des textes pour lesquels vous avez eu un coup de foudre, ce qui est le cas dans A Vif, ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas, ça n'est pas de le dictionner élégamment ou pour montrer à quel point soit je suis virtuose, soit l'auteur l'est lui-même. C'est surtout pour essayer de tellement l'approprier qu'il en devient un son très direct et très... une phrase qui vient de naître, une réflexion, une pensée, une émotion qui vient de naître à l'instant entre... le public et moi. C'est ça qui me touche le plus à faire.
Être comédien, c'est être ou ne pas être soi ?
Là reste toute la question. Voilà. On n'en sortira pas, je n'ai encore pas la réponse. Et le grand Will que vous citez, à bon escient d'ailleurs, n'a toujours pas personne n'a cette réponse.
Alors dans Weber à vif, donc, votre spectacle, c'est un montage de textes. Dans Rangé, le texte de Pascal Rambert, c'est un monologue. Et dans les deux cas, j'ai quand même l'impression que le public vient voir Weber.
Moi, pas du tout. Ça, je vous dis alors du front du cœur. D'abord, dans A Vif, je ne suis pas seul, je suis avec deux musiciens, et c'est très important, ils ne sont pas là pour m'accompagner, mais pour concerter avec moi. Ils bluesent, ils rockent, ils swingent, ils vont même parfois dans des sonorités de musique contemporaine absolument magnifiques. Il y a un accordéoniste qui est un des plus grands accordéonistes d'Europe et très spécialisé en musique contemporaine. Et face à un rocker, moi, je l'ai rencontré dans le spectacle de Johnny Hallyday, c'était lui qui faisait les solos d'accordéon, d'harmonica, et sont deux musiciens merveilleux, et j'insiste là-dessus, tout est totalement improvisé. Il n'y a pas un thème qui soit écrit, c'est en permanence improvisé dans le spectacle.
Donc Greg Slapp pour l'harmonica et Pascal Comté pour l'accordéon.
Non, je pense que quand on dit, bien évidemment, mon nom maintenant n'est pas totalement inconnu, en tout cas du troisième âge, des cheveux bleus. Puis je ne suis pas totalement inconnu, soyons sérieux, mais c'est pas tellement ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est que il y ait cette belle attente et cette sorte de virginité qui se met à fleurir comme ça, qui est la scène lorsque le rideau s'ouvre.
Mais quand je vous dis ça, Jacques Weber, c'est surtout parce que j'ai le sentiment qu'on vient voir Weber, mais pas pour l'homme célèbre, pas pour le people, pas pour celui qu'on a vu dans Thérapie à la télévision ou ailleurs, mais qu'on vient voir un peu la quintessence de ce qu'est un acteur, c'est-à-dire une présence sur scène et une puissance à dire.
Oui, alors ça me touche beaucoup. Ça, ça, oui. Moi, ce qui est vrai, c'est que si vous me demandez, puisque j'ai eu plusieurs fonctions dans ma vie, j'étais directeur de théâtre, metteur en scène, je m'essayais à écrire, j'ai réalisé, etc. Mais je crois que la maison mère, c'est être acteur, c'est être en scène, c'est vivre en scène. Et je me rappelle toujours cette phrase merveilleuse de Coltès qui disait « c'est le seul endroit où tout est faux pour être vrai ». Et c'est vraiment le seul endroit où tout est faux, où je me sens bien pour tenter d'être vrai. Voilà, ça, là, oui, j'y suis bien. Je pense que ça, c'est vrai. Les gens aiment peut-être ce qui sort un petit peu de moi, cette espèce de liberté et de sensualité aussi, au niveau des sens, qui est là, qui est en jeu lorsque je suis en scène. On ne sent pas quelqu'un de guindé par telle ou telle théorie de jeu. On sent au contraire une espèce de liberté joyeuse, presque enfantine, presque naïve. Enfin, peut-être. En tout cas, moi, je me sens comme ça quand j'entre en scène, malgré le fait que j'ai une trouille de plus en plus forte. Et là, je me rappelle de Pierre Brasseur, mon maître, qui me disait « Tu verras, plus tu vieillis, plus tu auras le trac. » Et pourquoi on a de plus en plus le trac ? Parce qu'on se rend compte que c'est, de n'être que bien, c'est déjà extrêmement difficile.
Ouais. Mais être seul en scène, Jacques Weber, ce qui est le cas dans ces deux spectacles, même s'il y a des musiciens pour l'autre, vous êtes le seul à dire, vous êtes le seul à porter le texte. Est-ce que ça crée une excitation particulière ou c'est une trouille plus grande ?
C'est une autre trouille, c'est une autre excitation, ni moins ni plus grande que de jouer. Je crois quand même que ce qui reste le plus difficile, je ne parle pas de Ranger, qui est une œuvre assez particulière, où je m'adresse à une photo et qui, par le fait que je m'adresse à elle, ma femme qui est décédée 2 ans avant, elle reprend vie presque, et il y a presque un dialogue entre elle et moi. Mais je pense quand même que, au fil des ans, je me rends compte que quand même le plus dur, c'est oui, de loin. C'est quand même quand vous vous retrouvez devant le roi Lear, quand vous vous retrouvez devant Galilée, devant la dernière bande, devant des grands rôles que j'ai eu la chance folle d'interpréter, Alceste, Don Juan, Tartuffe, etc. Là, c'est difficile, car là, si vous vous trompez, c'est le rôle qui en prend un coup, c'est la crédibilité du rôle qui en prend un coup. Là, dans la vie, si je me trompe, ça fait partie du jeu, ça fait partie de cette faiblesse qui peut même toucher les gens, quoi, vous voyez. Voilà.
Jacques Weber, cette semaine est celle du printemps des poètes. Alors, sur scène, vous dites Hugo, Rimbaud, Maïkowski. Cyril Dion, lui, sort un disque avec le guitariste Sébastien Hogg. Cyril Dion, c'est le militant écolo proche de feu Pierre Rabhi, réalisateur, éditeur, poète et diseur.
Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise. Pas nés pour les allées des hypermarchés. Pas nés pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des hauts fourneaux. Pas nés pour réduire en cendres. Pas nés pour saigner à blanc. Pas nés pour pisser dans l'eau claire, dressée sur les cuvettes immaculées. Pas nés pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pas nés pour les photocopies et les machines à café. Pas nés pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pas nés pour le carnage. Pas nés pour le ménage. Pas nés pour la télé. Pas nés pour engraisser Titi à lunettes, à bretelles. Pas nés pour Wall Street. Pas nés pour l'argent. Pas nés pour Kim Kardashian.
Cyril Dion avec Sébastien Hogg sur RFI, un disque et un livre, Résistance poétique, publié chez Actes Sud. Texte, musique, c'est aussi, Jacques Weber, le cœur de votre spectacle, Weber à Vif, qui est un montage en toute liberté, c'est vous qui le dites, de textes de tous les genres, c'est encore vous qui le dites, donc sans lien apparent. Quel est le fil rouge quand même? C'est vous? C'est uniquement vous?
Mais est-ce que vous avez remarqué, il y a une chose qui m'a toujours frappé, mais qui frappe tout le monde, c'est que lorsque l'on déjeune, par exemple, on commence par le goût de la tomate, on continue par la bombe atomique, ensuite par l'Ukraine, on revient ensuite à la couleur des yeux du chat, pour repasser sur le crocodile qu'on a aperçu dans une pub à la télé pour je sais pas quoi. Pour les... bon. Enfin bref,
on dîne avec vous, en fait.
Et ce coq-à-l'âne, en même temps, je suis sûr qu'il a des liens. Il a des liens, c'est comme ces rêves mystérieux le matin quand on se réveille, on se dit « Pourquoi j'ai rêvé ça ?» Forcément, il y a des liens dans l'inconscient, subconscient, tout ce qu'on voudra, ça c'est pas ma compétence. Donc je pense qu'il y a, en tout cas, moi il y en a un que j'identifie immédiatement, c'est ce que j'appelle le coup de foudre, et je me rappelle toujours de cette phrase merveilleuse « Croyez-vous au coup de foudre ?» Pas du tout. Alors, vous me permettrez de rester encore un peu. Et donc, je trouve cette phrase extrêmement amusante, très british. Elle est d'ailleurs dans un film joué par un british, Charlton, merveilleux. Et je pense que, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des textes sur lesquels je suis devenu fou, des auteurs sur lesquels je m'arrête tout le temps. Et j'ai envie de les faire vivre sur scène.
Mais vous êtes un grand lecteur, de nuit, de jour?
Très honnêtement, je ne pense pas pour dire, je suis un grand lecteur à partir du moment où je suis sur un sujet donné, sur une préoccupation donnée. Mais très honnêtement, il me reste un petit truc de l'enfance qui était de penser que lorsque je lisais, je m'ennuyais ou je ne faisais pas quelque chose. Pour moi, lire n'était pas faire quelque chose. Et j'avais toujours cette volonté de faire, d'agir. C'est resté un peu... J'ai l'impression que c'est, alors que c'est complètement idiot, c'est le contraire d'un temps mort. C'est sans doute le plus beau temps de l'existence, c'est sans doute la lecture. Je m'en rends compte de plus en plus, peut-être un peu tard, mais il est toujours temps pour bien faire. Non, mais je lis quand même pas mal. Mais par rapport
vous
à des amis...
Vous diriez le contraire, je ne vous crois pas.
Voilà, mais pour quand vous voyez des amis comme Denis Podalydès qui lit même au feu rouge, vous posez des... Oui, oui, vraiment, ou entre deux prises. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est des vrais lecteurs.
En tout cas, vous nous faites découvrir des textes assez étonnant et pas forcément très connu. Pour certains, ils le sont, mais pour d'autres, pas du tout. Il y a une lettre de Frida Kahlo, par exemple, et un texte de Marguerite Duras qui m'a absolument saisi parce que c'est un texte très court qui est glaçant, qui raconte l'histoire d'une femme à qui l'on coupe l'eau car elle ne peut pas payer ses factures.
C'est tout simplement Marguerite Duras qui a écrit, elle écrivait de temps en temps pour certains journaux, et qui a écrit sur un fait divers, un peu ce que l'on appelait à l'époque un chien, les chiens écrasés. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de donner à la dimension tragique, à un fait divers absolument quotidien, anodin, banal, épouvantablement banal. Et j'ai repéré cet article, et on peut le retrouver, je le dis aux gens, dans un recueil des textes de Marguerite Duras, de textes courts, qui s'appelle « La vie matérielle », qu'on retrouve en folio pour pas cher, et c'est magnifique.
Il y a des textes absolument splendides. Et c'est donc l'histoire de cette femme qui ne peut pas payer ses factures, et elle va, avec ses deux enfants et son mari, s'allonger sur les rails
du TGV,
et en mourir.
Ce qu'on appelle un suicide de sidération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots entre eux, il n'y a pas d'explication. Ils y vont ensemble et ils meurent ensemble. C'est quelque chose d'effrayant. Et je pense que lorsqu'il s'agit de textes comme ça, on doit trouver ce que Bresson appelait le recto tono, enfin cette tonalité blanche, limpide, lisse, un peu... On est tout près de Racine, quoi. J'aime beaucoup ça. Et ça me donne parfois l'envie d'aller murmurer du Racine dans un salon. Ce qui serait dommage, c'est qu'il n'y aurait pas assez de public. Mais je pense que c'est un art du murmure. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Thierry Meunier qui disait à propos de Racine et à propos de Duras, je trouve, il y a une relation tellement proche, c'est un art de sourdine et je trouve ça très beau.
En tout cas, ce texte, à l'heure où l'on parle de très grande richesse et de très grande pauvreté, résonne très particulièrement.
Et ça aussi, je vous remercie de le souligner, car je n'ai qu'une envie, c'est hurler contre ça. Enfin, quand on voit l'extraordinaire élargissement qu'il y a, le fossé énorme qui se fait entre les très riches et les très pauvres, c'est absolument répugnant au sens propre du terme, quoi.
Et à côté de ce texte de Marguerite Duras, vous nous faites l'exégèse d'un poème de Hugo, La retraite de Russie. Oui. Et là aussi, c'est absolument magnifique ce que vous dites de ces vers. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête, sombre jour. Et vous nous expliquez mot après mot le rythme et le sens du poème.
Alors ça m'amuse. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai jamais écouté les théories sur l'art de la diction. Et Dieu sait s'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a des naturellement très brillants. Mais ça ne m'intéressait pas. Je travaillais avec mes propres moyens. Et si, par exemple, on me demandait à faire un petit poème chinois, je me prie d'excuser parce que c'est épouvantable de faire ça, mais je prenais l'accent comme ça, pour trouver le rythme exact. Et moi, je travaille avec les couleurs. Lorsque je dis à propos des animaux, par exemple, je reprends une phrase de La Fontaine après l'entrée du petit lapin, après avoir brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain à ses jours, je n'invente rien. On entend pop, 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 pop. Pourquoi ça ? Et moi, je dis, je cherche pourquoi. Et je me dis, mais merde, quand je voyais un lapin, généralement, je le voyais se débiner. Et qu'est-ce que je voyais ? Je voyais son petit cul sautiller. Et donc, il y a un petit coup de cul à mettre sous chaque mot. Je pense qu'il y a une ludicité. Il y a quelque chose de très joyeux qu'il faut trouver lorsqu'on travaille. Et de très imagé. Il faut trouver les images qui vous ramènent alors à des lois que l'on connaît, qui sont les lois de la brève, de la féminine, dans le respect du vers, etc. Mais ces lois ne sont très acceptables pour quelqu'un que si on les déthéorise et qu'on les fleurisse, quoi. Voilà.
Mais en tout cas, je me suis dit, vous devriez être prof. Alors, parce qu'expliquer Hugo comme vous le faites, alors là, ça donne envie.
Beaucoup de gens me disent ça et j'ai un peu peur parce qu'il faut pour être prof une très grande pédagogie, beaucoup de respect de l'élève et je suis pas sûr d'être compétent pour ça.
Hugo et Rimbaud dans votre spectacle Jacques Weber. Oui. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière, le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. 8 de juin, 17 ans, se laisse griser la sève et du champagne. Il vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou, Robinson à travers les romans lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux ? Loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis, l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Arthur Rimbaud, dit par Jacques Weber. Vous avez eu 17 ans, vous aussi.
Oui, alors c'est pas très académique comme façon de le dire, mais c'est ça que permet ce spectacle, c'est que d'un seul coup, je fais bondir un texte qui est d'une poésie absolument parfaite. Vous savez que Rimbaud a écrit ce texte pour dire aux Parnassiens, ça suffit, et moi aussi je sais faire des trucs et respecter les lois. Donc normalement, c'est un texte qui vaut aussi par la perfection de sa lisibilité, et on peut très bien le dire merveilleusement comme ce fabuleux diseur de textes de poésie, je me souviens de Jean-Louis Trintignant dans ses récitals poétiques, on peut le dire bien évidemment comme ça, et c'est splendide. Mais là, dans ce type de spectacle, on peut d'un seul coup s'en emparer comme un mot amoureux.
Mais oui, parce que ça raconte l'histoire d'un premier amour.
C'est ça, voilà.
Et ça compte les premiers amours, oui, si j'en crois aussi. Votre livre, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, vous racontez ce premier amour, vous avez à peine 20 ans et vous tombez amoureux.
Oui.
D'une jeune femme qui travaille dans une pizzeria.
Et alors, au comble merveilleux, c'est que cette pizzeria se trouvait dans une vieille petite cave comme ça. C'est là où on avait tourné. Le four de la pizzeria était le four de tournage de la femme du boulanger de Marcel Pagnol. Vous vous rendez compte, avec Rému.
Ça, c'est un signe.
Alors déjà, ça me bouleversait. Puis alors, quand vous voyez ce soleil qui était là, cette femme magnifique qui était là, et je suis tombé, mais fou amoureux.
Deux mots sur ce livre, On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. C'est une autobiographie, mais c'est une drôle d'autobiographie parce que le sujet, ce n'est pas vous, mais plutôt les gens que vous avez rencontrés tout au long de votre vie.
Oui, je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai pas très envie de me dévisser le nombril. J'ai vraiment été très touché par la chanson de Chédid. Elle a résonné en moi très bizarrement. Le Chédid, j'ai trouvé merveilleux. C'est une belle famille, hein, les Chédid. Et je trouvais formidable. Et j'ai dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Si je m'amusais comme ça, à me laisser aller dans un désordre absolument effrayant, parce qu'il en manque énormément de gens que j'aime. Mais j'avais envie de prendre ça comme ça à bras-le-corps, et que ça soit le fil rouge d'un livre qui passe à travers des époques, qui passe à travers des anecdotes de ma vie, mais des anecdotes rigolotes, des aventures courtes, brèves. Et voilà, alors, il y a des gens connus, il y a des gens moins connus, il y a Depardieu et Deneuve qui se baladent, mais il y a aussi mon chien, un cheval que j'adorais, et puis Nanette, la grand-mère punk du Jardin des Plantes, cet orang-outan absolument magnifique qui est là-bas.
Et c'est une façon de faire revivre les morts.
Oui.
Que ce livre aussi.
Oui, mais je pense que les morts ne nous abandonnent pas. Les âmes se baladent de façon. Alors attention, je suis pas. J'en sais rien, mais toujours est-il que c'est sûr qu'il y a un monde étrange du passé qui est là toujours dans l'air, quoi. Et ils sont là, les morts, oui.
Et est-ce qu'on rencontre, Jacques Weber, des personnages de théâtre comme on rencontre des êtres humains ? Est-ce que rencontrer le roi Lear, c'est aussi important que de croiser la route de Depardieu.
Si rencontrer... Ah, alors là, c'est différent, parce que je crois qu'il y a chez Gérard Depardieu une dimension presque subhumaine ou surhumaine, je le pense vraiment, c'est un génie, voilà, c'est un génie, c'est point final, c'est indiscutable. Et donc, il est tout aussi impressionnant que lorsqu'on approche le roi Lear. Mais s'il fallait qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je sois aussi impressionné que quand j'ai vu le roi Lear, ce serait difficile. Non, non, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait... j'ai envie de dire que c'est une porosité différente. Lorsqu'on arrive sur ce texte, il n'est rien si ce n'est qu'un sens. Et puis, de temps en temps, il y a une poésie, mais qui est là, qui est offerte, et est-ce qu'elle va vous toucher, est-ce qu'elle va vous bouleverser, on n'en sait rien. C'est une terre en jachère et qu'il faut recultiver sans cesse un texte.
Shakespeare, un texte.
Oui, un texte, oui.
Quel qu'il
soit. Vous savez ce qu'il a dit de magnifique, Shakespeare, à un moment, je crois que c'est dans le Songe d'une nuit d'été, il dit « trouve la lumière de l'obscurité ». Je crois que c'est ça le métier de comédien, le métier de diseur aussi.
Alors il y a dans ce livre, Jacques Weber, et dans votre spectacle, des moments graves, avec un sentiment de mélancolie parfois, mais vous avez toujours l'œil rieur et vous racontez des anecdotes assez étonnantes, comme par exemple Sarah Bernard qui glisse des ordres pour monter le chauffage caché dans un verre de racine.
Et que le jour commence et que le jour finisse, fermez la porte, il fait un froid dans ses coulisses sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Et le miracle, c'est que vous n'entendez pas ça. Et le nombre de fois où ça se passe, c'est incroyable. Il y avait des grands spécialistes.
Mais ça, c'est vrai.
Des anecdotes avérées. Quand je dis que Jouvet, quand il était metteur en scène, entre deux répliques, il accélère, accélère, on s'emmerde, allons-y, va plus vite. Ah oui, il y a plein d'histoires comme ça qui sont très amusantes, mais peut-être parce qu'on a besoin d'une remise à distance. C'est sans doute ça le problème.
Et c'est des anecdotes, vous les racontez souvent avec la voix des personnages, parce que vous êtes un bon imitateur. Hein, la voix de
Jouvet,
vous savez.
Mais parce que ça m'amuse, quoi. Ça m'amuse. Oh, il y a des oui, mais non, je ne suis pas un grand imitateur. J'en connais des grands imitateurs, c'est quelque chose. Non, mais par contre, j'ai accroché un ou deux trucs de même, quoi. Voilà, quoi, ça m'amuse.
Donc, vous lisez Rostand, Tchekhov, mais aussi Raymond Devos. C'est cet alliage de chez Devos entre la gravité et la légèreté.
Et le dédoublement de la personnalité, ça existe. Je vais vous citer un cas. Tenez, je connais un critique qui est en même temps auteur. Ce qu'il met en tant qu'auteur dans une situation critique. Il a écrit une pièce qu'il a fait jouer, et le soir de la générale, c'est lui qui était dans la salle pour faire la critique. Comme il est sévère, mais juste, le lendemain, dans la presse, il s'est éreinté. Il s'est littéralement traîné dans la boue. Quand l'auteur a lu sa critique, il s'est envoyé une lettre dans laquelle il disait qu'il n'avait rien compris à sa propre pièce. Depuis, il ne se parlait plus. Quand il se regardait dans une glace, il ne se saluait plus. Et puis, il n'arrêtait pas de s'envoyer des lettres d'insultes. En tant que critique, disait-il à l'auteur, vous écrivez comme un manche. En tant qu'auteur, il répondait aux critiques, critiquer c'est facile, mais pour écrire, c'est une autre paire de manches. Après s'être envoyé plusieurs lettres, il s'est envoyé une gifle. Comme ce n'était pas un lâche, il se l'est rendu. Après s'être envoyé plusieurs gifles, quand il eut compris que d'un côté comme de l'autre, c'est toujours lui qui prenait, il se dit « c'est trop bête ». Alors il s'est invité à déjeuner tout seul, en tête à tête. Voilà. Mais ce qui est formidable chez Raymond Devos, c'est qu'il était tellement génial, lui, comme interprète et comme clown, que parfois, on ne voyait même plus à quel point ses textes étaient extraordinaires. Parce qu'il dit « je suis incroyable !» Alors, il était comme ça.
Un peu éructant, oui.
Ah oui, c'était incroyable. Il était énorme sur scène, il était hyper maquillé comme un clown. C'était un des plus grands showman que j'ai vu. Mais des gens comme François Morel disent merveilleusement du Devos, et moi j'essaie de lui retrouver une espèce de logique un peu imparable comme ça, et ça m'amuse beaucoup de le faire. C'est lui qui m'a offert, c'est-à-dire que c'est un texte qui est hors droit, qui m'a offert ce texte il y a bien longtemps. Voilà.
En tout cas, merci Jacques Weber d'avoir lu ce texte. Mmh. Vous transformez comme ça ce studio de radio en une scène de théâtre, quasiment. Est-ce que en 50 ans, votre approche du théâtre et votre approche des textes a changé ?
Ah, énormément, heureusement. Heureusement, je crois que j'avais un professeur merveilleux qui était François Florent, avec qui j'ai correspondu jusqu'à la fin de ses jours à lui. Il est mort récemment et il m'a énormément aidé dans mon métier. Et il disait cette chose, tu deviendras un bon comédien lorsque tu joueras main en bas.
Main en bas,
ça veut dire sans s'expliquer, sans vanité, sans démonstration. Être, tout simplement. Être, comme on dit, planté dans le sol, quoi. Être soi-même totalement, intégralement, c'est une chose extraordinairement difficile. Il faut des années pour ça. Je crois que, en tout cas, il me semblerait que je me suis absenté, je me suis éloigné de ce qu'on peut appeler, qui est un des plus graves dangers de l'être humain, c'est la vanité, quoi. Quand on approche de la fin, ça va encore. Mais c'est disons la décennie qui commence à être de là. Et voilà, je crois qu'on voit les choses essentielles.
Mais vous avez un parcours passionnant quand même, Jacques Weber, parce que vous avez commencé avec des textes très classiques, comme acteur, mais aussi comme metteur en scène. Vous avez dirigé un théâtre, vous l'avez dit. Et puis ces dernières années, notamment grâce à Pascal Rambert, vous avez une figure comme ça. D'acteur contemporain pour du théâtre contemporain.
Oui, mais parce que j'ai été bien entouré, je me souviens des gens merveilleux dans mon équipe du théâtre de Nice qui a été détruit par ce salopard d'Estrosi. Je pèse mes mots et je persiste et signe à ce que je dis. C'est une horreur de démolir un théâtre comme il l'a fait, mais c'est autre chose. Mais voilà, qui est des gens qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé à sortir un peu de ce classique dans lequel je me sentais bien. Voilà. À ce moment-là, j'ai forcé des rencontres. J'ai joué Boto Strauss, j'ai joué Jean-Claude Carrière, j'ai retrouvé des metteurs en scène, Alain Françon, Jacques Lassalle, et puis cette rencontre avec Peter Stein et Beckett, qui pour moi a été un des moments les plus magnifiques qui soit.
Et Pascal Rambert, dont vous jouez Rangé actuellement.
Pascal Rambert, j'ai joué Architecture, on se connaissait depuis longtemps.
Oui, c'était créé au Festival d'Avignon.
Il était un beau du théâtre de Nice quand il était tout jeune. Quand on a joué Architecture, il m'a dit « je vais écrire pour toi » et j'étais bouleversé. Pour moi, ça a été un des plus beaux cadeaux. Et là aussi, je pèse mes mots, mais dans le bon sens, de ma vie. C'était formidable qu'un auteur comme lui, qui est l'auteur le plus joué au monde à l'heure actuelle en langue française, m'écrive pour moi. Ça m'a absolument bouleversé.
Rangé, qui est donc le récit d'un homme qui décide de mourir alors qu'il est en Asie.
Il dit « tu es morte il y a 2 ans, je n'ai plus envie de vivre ». Ça commence comme ça. Il s'adresse à sa femme et il décide un peu de raconter sa vie et sa veille, sa journée, comme ça, très simplement. Et comme s'il entretenait encore encore la conversation.
1h20, quelle mémoire. Ouais. C'est toujours une fascination, la mémoire des comédiens.
Alors oui, mais je ne comprends pas tellement pourquoi, parce que pour nous, c'est une sorte de muscle qu'on entraîne un peu comme ça. Et puis, quand vous voyez, par exemple, les acteurs du français qui changent d'un rôle à l'autre, ça, pour moi, c'est très, très difficile. Qu'un soir, je joue le Roi Lear, le lendemain, je joue Marivaux, je peux vous dire que c'est compliqué dans la tête.
Voilà. Merci, Jacques Weber. Merci. Votre livre, On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, est publié aux éditions de l'Observatoire. Et vous êtes sur scène à la Scala pour Weber à vif jusqu'au 16 mars, puis du 11 au 30 avril. Et entre ces deux dates, vous êtes en tournée avec Rangé. Pascal Paradou, Dre Taïeb, Guillaume Ploquin, à demain.